problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec vous pendant toute cette période. Sans foot, on est là tous les soirs, uniquement à la radio, hein, sur RMC, RMC Sport News. C'est arrêté le temps, donc cette période sans actualité sportive, mais nous sommes bien sur RMC tous les soirs et disponible en podcast évidemment pour vous, avec un casting de rêve une nouvelle fois dans l'After ce soir. L'After en télétravail, hein, je le rappelle, puisque je suis actuellement dans notre studio avec Eric Huette qui est là. Salut Eric.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
On est tous les deux. Daniel Riolo est là lui aussi. Daniel, bonsoir.
Eh bien, salut les amis. Mais pourquoi vous avez le droit d'être là finalement? Comment ça s'est pris cette décision?
Écoute,
je m'inquiète pour vous du coup, moi.
Les plus chiants, on leur a dit de rester chez eux. Donc du coup, c'est toi et Jérôme Rotten. Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous. Les plus chiants, ouais.
C'est pas méga clair comme explication, mais si t'as celle-là, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là.
Bon,
donc, bizarrement, j'ai été assimilé à Jérôme alors.
Moi, bon, on m'a dit les plus prestigieux, on les laisse au chaud.
Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ceux qui ont le plus de valeur. Hein. C'est, on leur dit, vous restez...
C'est pas peut-être, c'est même sûr. Hein.
Ah bon, c'est ça.
Ça me fait un peu de peine pour Eric quand même, qui est là, qui voit, qui
bon, moi,
sort de chez lui pour venir. Non mais toi, je sais que t'es robuste, toi, rien ne te touche jamais, mon vieux. Mais Eric, je sais pas sa solidité, donc je voudrais pas que... voilà.
Je tiens bon pour l'instant, je tiens bon. Je céderai ma place demain à Pierre Ducrot, qui semble très sûr. Je l'ai entendu tout à l'heure, il est en grande forme, Pierre.
Ne touche à rien, hein, surtout. Hein.
Ah bah attends, en plus,
Daniel, ne respire rien. Avec Gilbert.
Daniel et Jean, ouais. Figurez-vous qu'on nous a donné les micros de Jean-Jacques Bourdin. Ah, c'est assez déstabilisant.
Ah ouais,
oh. Tu sais, les gros micros, là, années 60.
Ah ouais, ah ouais, mais en même temps, ça fait un peu stylé. Tu te prends pour Frank Sinatra avec ça.
Non, Jean-Jacques Bourdin. Monsieur Rotten, combien avons-nous de porte-avions?
Ce n'est pas ta photo Twitter, d'ailleurs, Gilbert.
Si, exact. D'ailleurs, je l'avais avant. Bon, bref. Respectez-vous le confinement, Monsieur Rotten.
Oh, Jérôme, ouais, il doit respecter, mais il a un jardin, je dois sortir dans le jardin quand même.
Là, je peux dire que j'ai pas bougé de la journée.
Jardin, tu sors un peu?
Oui, jardin, il est nettoyé. Il est,
pour reconnaître, Daniel, que quand t'as une maison de 600 mètres carrés avec un jardin et une piscine, c'est quand même mieux que l'appart de 25 mètres carrés.
Ça, c'est
plus
sûr.
Facile, mais... pour faire ton footing, quoi.
Oui, mais là où lui est très emmerdé, c'est qu'il, forcément, parce qu'il prend soin des gens, il peut pas faire venir les domestiques. Donc, ça veut dire que lui-même doit organiser sa vie. Comme il sait pas où est la cuisine, déjà, c'est emmerdant pour bouffer.
L'aspirateur, t'as compris comment ça marchait?
Je sais pas, c'est quoi ça?
T'as trouvé le chemin de la cuisine ou pas, Jérôme? Le chemin de la cuisine, c'est bon?
Ah, c'est bon, t'en fais pas. Mon chien me le montre, le chemin de la cuisine.
Ouais, non, mais raconte un peu, là. T'es installé comment chez toi, là? On veut savoir, nous, hein, Jérôme.
Écoute, là, franchement, je suis dans mon canapé. J'ai mon labrador à côté de moi qui ronfle. Donc, si vous l'entendez, c'est pas grave.
Ah, parce qu'il ronfle en plus.
Ouais, il est bien. Bah, ça veut dire qu'il est bien, il est à son aise là. Et puis, là, il y a personne parce que j'ai viré tout le monde en fait.
Très bien.
Voilà, donc je suis tout seul pour être concentré.
Comme tu es à 5 étages, c'est sûr que c'est plus facile. Et toi, Daniel, t'es comment là?
Ah bah, moi, une fois que j'ai installé le matériel à un endroit, je vais pas le bouger tous les jours. Hein, donc salle à manger, table de la salle à manger, je suis dessus.
Une fois qu'on t'a installé le matériel, Daniel.
Pardon, Eric.
Une fois qu'on t'a installé le matériel. Oh, non, mais tu rigoles, c'est lui qui l'installe.
Alors, Non, on pouvait pas me l'installer. Hein, c'est vrai que j'ai flippé un peu pour ma rapport à ma nullité technologique, mais on pouvait pas parce que justement personne ne pouvait venir. Donc j'ai un peu flippé, mais finalement quand je suis venu chercher à la radio le matériel, après on m'a guidé par téléphone. C'est un peu genre comme dans les films catastrophes quand on était petit là avec la tour de contrôle où le mec disait dans le Boeing 747, il faut toucher la manette de droite. Il faut maintenant toucher la.
Et voilà. Non, je te crois pas. Il y avait un fil à brancher. Daniel, arrête un peu tes bêtises.
Mais un fil à brancher, c'est que si tu l'as jamais fait, le fil à brancher, il est bon, lui.
Bah, c'est un fil internet, tu le branches derrière la box, c'est pas bien
mais
dur, quand même.
Mais par exemple, je ne savais pas que ça se foutait au cul de la box. Il fallait qu'on me le dise, sinon je savais pas où le brancher, le truc.
Bah, non, mais tu le mets où? Dans les chiottes?
Mais t'es bête ou quoi? C'est toi qui es con.
Mais
si on ne dit pas, non, si on ne dit pas où le brancher, tu vas te brancher quoi? Sur le cul, tu vas te brancher, mais il est.
Tu branches bien la box, quand même. Non, mais.
Mais je savais pas que c'était sur la box. Je pensais qu'il fallait, par exemple, j'ai cru qu'il fallait une prise de téléphone. Comme j'ai pas de prise de téléphone, tu t'es emmerdé, mais on m'a dit non. Tu m'occupes de la boxe. Ben là, voilà, je savais.
Bon. Très bien.
Et ben.
La prise de courant, t'inquiète, je savais. Je sais encore ce que c'est une prise de courant.
Sachez que les plus grands nous écoutent, hein, puisqu'il ne reste plus beaucoup d'émissions de foot encore dans le PAF qui continue. Donc les plus grands nous écoutent. Luis Fernandez, notamment, est là.
Luis Fernandez, il écoute depuis plus de 10 ans. Il ne va pas écouter juste maintenant que la situation est critique.
Et alors, oui, ça me permet.
C'est notre auditeur numéro 1.
On en a parlé hier de Luis en plus.
Bon, on parle tout le temps de lui, Luis, tu parles. Il m'a appelé cet après-midi pour tout vous dire et il m'a dit ça me permet de relire quelques bouquins. Il m'a dit j'ai retrouvé une photo de moi où je regarde Michel Platini tacler et je dis donc bah, c'est bien ce que je pensais, il a toujours été mon chaouche et c'est moi qui faisais tout dans cette équipe. Il est fort,
oui,
c'est
Platini, il taclait pas des masses.
Bah, selon Luis, c'est d'être le seul tac qu'il ait fait dans sa carrière dans la photo.
Il paraît qu'il y a une autre personne qui a été et qui est toujours dans un de nos grands consultants, souvent très proche de Jérôme d'ailleurs, qui paraît-il n'a jamais sali son short non plus. C'est la légende qui dit ça.
Hein? Ah, Jean-Michel.
Et voilà.
Jean-Michel Larquet.
Jean-Michel Larquet, il paraît qu'il n'a jamais sali son short. Jérôme, t'es
pas
au courant?
Il n'a jamais taclé?
Bah, jamais.
Faudrait que tu lui dises dans l'émission quand vous faites l'émission ensemble.
Il a fait un jour un sujet avec Jean-Michel sur les tacles, il va te dire que c'est l'arme des faibles.
C'est pas faux. Non mais c'est vrai, c'est pas faux.
Bah, le joueur de classe, le joueur. Mais tu sais qu'il y a même des.
Défenseur ne tacle jamais normalement.
Le grand défenseur, logiquement, on voit l'autre au charbon, il est derrière et tout. Il y a des grands défenseurs qui ne se salissent pas.
Mais tu sais, là-dessus, j'ai une anecdote. Moi, j'ai été formé à Clairefontaine avec Francisco Filho, donc vous le connaissez très bien. C'est un entraîneur qui t'apprend la technique avant tout.
Et qui veut qu'on défende debout.
Et ouais, dès qu'il voyait quelqu'un tacler, il disait cul par terre, c'est mort.
Ben oui, bien
donc,
sûr.
Donc, il n'y a pas de tacle, c'est interdit. Et des fois, bah, il n'était pas là. Et un jour, c'est André Merel, donc, qui entraînait la promotion numéro 1, qui nous a pris. Il nous a mis sur le synthétique à faire séance de tacle parce qu'il était énervé parce que Francisco ne nous apprenait pas à tacler.
Ah bon, ouais,
vous n'avez pas forcément la même conception du football.
Non, ça c'est
clair. Démiré les Francisco.
Voilà, ce que vous racontez
alors,
sur
cul par terre. Attendez, pardon, parce que cul par terre c'est en deux. La première faute c'est cul retourné. C'est la faute 1, cul par terre c'est 2.
Ah oui,
t'es d'accord, Jérôme?
Cul retourné c'est interdit.
Ah, c'est bien ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis que c'est numéro 1. Le cul retourné, c'est.
C'est Ricardo Rocha contre le PSG.
Bravo, Eric, la référence ultime, évidemment.
Voilà, sur la fin de Valdo.
Cul retourné de Ricardo Rocha devant Valdo. Cul retourné, c'est la faute.
Cul en la photo.
Faute suprême, le cul retourné.
Il y a certains gars, même de face, ils sont limite cul retourné. Tu prends Simao, par exemple. Il était tellement large du bas que.
Tu vois? Moi, les attaquants, c'est ce qu'ils me disaient quand ils faisaient un face-à-face avec Mickaël Landreau, je comprends pas.
Non, mais toi, il a fallu 8 minutes pour qu'il mette son premier taquet à Landreau. Non, mais.
Alors, on avait fait d'ailleurs une fois le 11 des gros popotins, on l'avait fait.
On l'avait fait, ouais.
Il y avait Simao, il y avait Nasri dedans aussi.
Il y avait Eden Hazard.
Eden Hazard, il est dans le 11 des
Hazard. Eden Hazard,
Ah oui.
Ah bah oui.
Oh. Ça me saute pas aux yeux comme ça.
Ah si.
D'accord.
Oui, alors ce que vous racontez sur les soucis techniques que vous avez, ça me permet de remercier, comme on dit maintenant, les équipes techniques d'RMC, c'est-à-dire Dimitri, qui a fait tout le boulot.
C'est justement lui que je dois remercier, Dimitri, parce que c'est lui qui m'a mis le matériel, parce que je suis venu le chercher, mais comme il faut pas qu'il y ait de contact, j'ai ouvert la porte de la voiture, il l'a mis derrière sans même que nous échangions quoi que ce soit, tu sais. Genre, il a posé le truc à l'arrière.
Alors, le programme ce soir, les gars, évidemment, on va parler de la réunion de l'UEFA aujourd'hui, qui a posé les bases d'un calendrier de secours. Toutes les infos à suivre, on entendra Didier Quillot dans quelques instants, on débattra au 32-16. On sera également avec Dominique Courdier dans quelques minutes. Minute de News Tank Foot ici. Il était avec nous la semaine dernière. Hein. Il avait été très clair dans ce qui allait se passer. Et puis, évidemment, concernant un peu les différentes prises de position, de parole, qui a le pouvoir à l'UEFA, à la FIFA aujourd'hui, qui décide. Donc, on pourra refaire le point dans quelques minutes avec lui après la réunion. On décryptera tout ça ensemble. On aura également tout à l'heure le président d'Amiens, Bernard Joannin. Il sera avec nous à 22h dans l'after. On va voir ce que lui aussi pense de la suite, que veut Amiens sur la fin de championnat. Il y a également eu une réunion à la Ligue, hein, dans la foulée de celle de l'UEFA. Donc voilà, ça nous permettra de savoir à peu près tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et puis, vous le savez, dans cette période sans match, le hashtag MonAfter vous permet de faire vos propositions pour le contenu de l'after. Et là, il y a un truc qui est arrivé en force sur le hashtag MonAfter depuis la fin de la semaine dernière. C'est quoi? C'est évidemment les chapeaux. Eh oui, les chapeaux que nous allons donc relancer pour 2020 ce soir. Les chapeaux 2020 avec, pour démarrer, comme de coutume, les avant-centres, donc les neufs, tout à l'heure dans les chapeaux, avec les drôles de dames qui seront là. Ils sont tous à bloc. Hein. Simone Rovera, ça fait depuis ce matin qu'il bosse. Donc, voilà, qui va devenir le nouveau Timo Werner chapeau 1? On le saura tous tout à l'heure. Donc, dans l'after. Je précise que Polo a eu quelques difficultés à comprendre le concept, hein, parce qu'il n'avait jamais fait encore les chapeaux, hein, Polo, il n'était plus avec nous. Donc, je pense que ça peut donner quelques choix mythiques de Polo Breitner tout à l'heure, les gars. Ce sera aux alentours de 22h40. Et puis, bien sûr, le quiz, Julien Cazard nous rejoindra à 23h. Il fera les chapeaux aussi, hein, Julien, d'ailleurs. Lui aussi a préparé ses chapeaux. Donc, avec vous au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live, on vous attend sur Direct Studio pour réagir à tous nos débats du soir. Les gars, la réunion de l'UEFA, donc ce que l'on attendait est arrivé. Le report donc de l'Euro 2020, c'est désormais officiel. On prévoit quand même, au passage, 200 millions d'euros de pertes, hein, avec cette histoire d'un an de délai en plus pour l'Euro 2020. Mais enfin voilà, ça a été acté.
Ça a coûté un Neymar alors, ce report.
C'est un peu, ouais, un petit peu moins.
C'est un minimum un petit peu en plus, moins, hein, Gilbert. Ouais. C'est un minimum, hein. On parle même de voire 300 millions d'euros, l'allocation des stades, les réservations hôtelières déjà payées. Ouais. Donc, c'est un minimum de 100 millions d'euros.
Ouais, exactement. Alors là-dessus, la CONMEBOL, la Confédération Sud-Américaine, a également reporté sa Copa América qui était prévue en juin. La CONMEBOL, ils font un peu n'importe quoi. Il y avait déjà une Copa América l'an dernier, ils en refont une cette année. Ils aiment bien l'oseille, parce que c'est pour ça, hein, en gros, hein, qu'ils font ça. Donc tout ça est reporté à l'année prochaine, avec les mêmes dates d'ailleurs. La Copa América, comme l'Euro, se tiendront du 11 juin au 11 juillet 2021. Voilà, en parallèle, on aura deux compètes internationales. Là-dessus, l'UEFA a également officiellement suspendu la Ligue des Champions et l'Europa League, avec, et c'est précisé par l'UEFA très concrètement, un groupe de travail mis en place aujourd'hui avec participation des ligues, représentants des clubs, pour examiner les solutions de calendrier, voilà, pour achever la saison. Donc, ça veut dire qu'évidemment, la réunion d'aujourd'hui n'a pas accoucher d'un calendrier précis, ça aurait été un peu trop simple. Évidemment, il y a des discussions qui continuent sur à la fois le format de la compétition, ce qu'on disait déjà depuis plusieurs jours, les matchs qui restent à jouer, les différentes dates à combiner avec les championnats. Voilà, on peut quand même dire qu'il y a eu un consensus global au niveau européen, ce qui arrive assez peu souvent quand même dans le monde du football.
Oui, mais on l'avait dit et au vu des circonstances, ça semble quand même logique. Et le contraire, ouais, eût été navrant. On avait dit que de toute façon, la volonté était l'union sacrée et d'arriver à un consensus pour que tout le monde soit d'accord. Ça, on le sentait.
Et ça a été quand même bien préparé en amont. On en parlait déjà dès hier. Donc, pour que tout se passe bien. Sachez également, il y avait une compétition africaine là prévue, c'est en avril, le CHAN, vous savez, la CAN réservée aux joueurs locaux. Mm-hmm. Hop, reporté, sinédié, pas de date là, on sait pas, ça devait se passer au Cameroun, ça n'aura pas lieu, en tout cas dans l'immédiat, on n'a pas encore de date de report.
Alors qu'on joue toujours au Cameroun, hein, si je me trompe pas.
Mais en Afrique, en Algérie, on joue encore. Hein.
Voilà.
Alors que bon, il y a des cas de coronavirus clairement déclarés, et au Cameroun et en Algérie d'ailleurs. Et dans beaucoup de pays africains, qui n'est pas épargné, l'Afrique, par l'épidémie, bien sûr. Il y avait encore quelques compètes qui se tenaient, les gars. Le championnat de Russie, qui s'arrête, ça y est, c'est décidé. Eux, ils disent on arrête jusqu'au 10 avril. C'est leur choix. La Coupe d'Argentine également était une des dernières compétitions qui se jouait encore. Elle a été suspendue, elle aussi, aujourd'hui. Et puis, alors, il y a une histoire assez dingue en Turquie. Parce que les Turcs continuent, hein. Les Turcs disent
ça ne devait pas s'arrêter.
Non. Et là, il y a le patron de Trabzonspor qui a dit écoutez, c'est normal. En Turquie, le football, ça permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser, de s'occuper. Et il dit le problème, c'est que si on arrête le foot, le nombre de divorces va exploser. Et derrière, on n'aura pas assez de juges pour les divorces, dit le président de Trabzonspor.
Ouais.
Voilà. Donc on justifie comme on veut, hein. Mais.
Ouais.
Voilà. Alors qu'en Algérie, c'est suspendu. En Algérie, depuis dimanche dernier. Voilà. Donc, ils ont encore joué ce week-end, mais là, c'est suspendu. Donc, voilà, le président de Trabzonspor, hein, je ne sais pas si tu le connais, Jérôme, tu l'as peut-être croisé.
Ouais, c'est possible. Si c'est le même depuis des années, oui.
Voilà, peut-être. Et puis, sachez également que Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus. C'est la Juve qui communique ce soir. Il a donc été placé en isolement chez lui. Et donc,
il était évident qu'il y en ait d'autres, hein, si un joueur de l'effectif. Voilà.
Alors, il a précision qu'il va bien.
C'est un porteur asymptomatique.
Exactement.
Donc, il n'a pas de fièvre, il n'a pas le.
Tout comme Mangala, hein, à Valence.
Il n'a pas de tout. Voilà.
Exactement. Voilà, j'ai fait.
Il a été testé sans rien avoir, en fait.
Bah oui, mais le problème, c'est que.
Porteur sain, Jérôme.
Voilà.
Hein? Porteur sain, tu es porteur sain.
Non, mais Jérôme, ce que veut dire Jérôme, c'est comment, pourquoi il a été testé, comment il fait pour le savoir.
Parce qu'il y a tellement de gens qui, malheureusement.
J'imagine à la suite de ce qui s'est passé avec Rugani.
Bah oui, mais bon, c'est pas.
Tous ses coéquipiers ont été testés, donc après, ça va dépendre de son organisme.
Non, mais Jérôme a raison, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant les tests.
C'est plus ça qu'évoquait Jérôme et que confirme Gilbert, c'est ça, c'est que t'es joueur de foot professionnel, machin, tiens, d'un coup, le test, on va le faire, quoi, tu vois.
Et y en alors a qu'en France, on sait que maintenant, pour être testé, il faut avoir clairement des symptômes déclarés et tu es testé directement à l'hôpital.
Voilà. J'ai un ami malheureusement qui a des symptômes. On lui a dit de rester chez lui et je peux te dire, on lui a dit oui, tu dois l'avoir, mais on le teste pas vu que ça va, quoi. Du moins ça va.
Oui.
Il a de la fièvre.
Vu que tu nécessites pas une hospitalisation.
Voilà. Excuse-moi, mais c'est quand j'entends que d'autres sont testés alors qu'ils ont rien, c'est un peu choquant.
Je te comprends, Jérôme. Bah là, c'est pas à l'initiative de Matuidi, hein, c'est à l'initiative du club qui a testé tous les joueurs.
Bien sûr. Non, mais ça, je critique pas ce qu'a fait le club, tant mieux. Mais qu'on trouve pas certaines excuses dans ces cas-là pour d'autres, quoi, qui malheureusement sont pas.
C'est d'ailleurs pour ça que les chiffres de cas déclarés sont là. En France, on annonce 7730 cas confirmés ce soir. C'est sans doute.
Il y en a deux, trois fois plus.
Ouais. Ouais, bah, oui, exactement. Voilà, parce que les tests ne sont pas faits.
C'est ça qui est un problème que je comprends pas trop. Mais enfin, bon, vu qu'on n'est pas scientifique, on va passer. Oui, et puis, voilà.
Restons sur le foot. Voilà. Alors, pour conclure sur le foot, sachez que les matchs amicaux de l'équipe de France, ça y est, sont officiellement reportés. Ukraine et Finlande.
Alors, merde. France-Finlande, putain, je me réjouissais quand même. Hein.
Bah ouais, c'est dommage. Alors attention, parce que ces matchs-là, ils pourraient quand même avoir lieu en juin. Parce qu'en fait, ce qu'a annoncé l'UEFA aujourd'hui, l'UEFA a dit voilà, ce qu'on va faire, c'est que la fenêtre.
En juin ?
Oui, parce qu'il y a une fenêtre.
En juin, il y a un milliard de matchs à rattraper.
Oui, mais attends.
Pourquoi faire celui-là ?
Il y a quand même aussi une fenêtre de matchs internationaux en juin. Tu vois,
malgré tout, ils ont quand même ménagé ça à l'intérieur d'un calendrier.
Pour l'instant, alors, dans cette fenêtre pourraient se jouer les matchs amicaux qui ne se jouent pas là fin mars, et pourraient se jouer aussi les barrages de l'Euro qui devaient se jouer fin mars. Vous savez qu'il y a les barrages là qui étaient sur des matchs match secs.
Plus éventuellement la Ligue des Champions, l'Europa League et les championnats.
Alors, mais justement. Alors maintenant, j'en arrive à ça. On va écouter Didier Quillot. Vous allez voir qu'il y a différentes éventualités qui ont été évoquées à la Ligue ce soir pour réorganiser l'ensemble Coupe d'Europe et championnat. On écoute Didier Quillot. C'était tout à l'heure, donc après la réunion à la Ligue.
Le principe majeur étant évidemment de tout faire pour terminer le 30. Mais s'il faut aller au-delà, on s'adaptera. On s'adaptera avec les clubs, avec les joueurs. S'il faut jouer tous les 3 jours, on jouera tous les 3 jours. Ce qu'a convenu l'UEFA aussi, c'est qu'on pourra sortir du MOU qui est entre nous, le MOU qui est Memorandum of Understanding entre les ligues et l'UEFA, qui dit que les ligues jouent le week-end et l'UEFA la semaine. Donc là, il a été convenu ce matin que chacun pourrait jouer quand il voudrait. On va attendre que le groupe de travail de l'UEFA se réunisse. Il donne des grands principes d'équilibre des calendriers. Et à partir de ces grands principes d'équilibre que donnera l'UEFA, nos services à la Ligue vont confectionner 2-3 scénarios qu'on présentera au conseil d'administration. Je pense sous 8-10 jours, quand on y verra plus clair des travaux de l'UEFA.
Voilà. Alors,
ça c'est bien. Ils essaient d'anticiper et de voir, créer un calendrier avec 2-3 versions possibles.
Je vais reformuler pour ceux qui n'ont pas tout compris, parce que la qualité sonore n'était pas bonne. C'était une conf call, comme on dit, de Didier Quillot avec plusieurs médias. Donc, l'objectif reste quand même de terminer au 30 juin. Maintenant.
Mais ça, c'est l'objectif archi prioritaire de tout le monde. Hein, voilà. Il faut quand même le dire.
Maintenant, ça a été redit aujourd'hui. Si jamais il faut aller plus loin, il y a moyen de le faire. C'est pas, impossible à mettre en place et tout. Et après, donc, ce qui est important, c'est que on peut jouer tous les 3 jours en effet, mais ce que veulent les ligues, c'est de dire, attendez, il y a ce qu'a décrit Kiola, il y a une règle établie, c'est on ne doit pas mettre de match de championnat un jour de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais un match de Ligue 1 un jour de Ligue des Champions au même horaire.
Ça s'est déjà vu de façon exceptionnelle et les Anglais, eux, l'ont déjà fait.
Les Anglais, en fait, ils se sont assis sur ce principe qui, en fait, est respecté par tout le monde, sauf par eux.
Et en France, ce qu'on voyait, c'était un 19h pour un match de Ligue des Champions, 21h.
C'était d'ailleurs
prévu pour le Strasbourg-PSG de la semaine dernière.
Exactement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir dire, cette règle n'existe plus. Comme ça, imaginons, on peut avoir, je dis au hasard, on peut avoir un PSG, PSG Atalanta, j'en sais rien, par exemple, la Ligue des Champions, en même temps qu'un Dijon-Amiens. Ce qui facilitera grandement, évidemment, le calendrier, sinon ça devient très
le Dijonais préfère avoir Dijon-Amiens.
On le comprend.
C'est normal.
Ouais, je dis Dijon-Amiens au hasard. J'aurais pu dire Montpellier-Toulouse. Bref. Donc ça, c'est les grands principes. Là-dessus, la FIFA a également sorti un communiqué. Gianni Infantino, qui appelle une conférence téléphonique demain du bureau du conseil de la FIFA pour accepter les reports de la Copa América et de l'Euro et pour décaler la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est ce que nous disait Dominique Cordier jeudi dernier. Il disait, la Coupe du Monde des clubs, c'est en juin prochain, c'est déjà calé, dealé avec les sponsors, avec les Chinois qui vont l'accueillir et tout. Donc, il y a des enjeux financiers importants. Donc là, la FIFA, ce soir, ouvre la porte à un décalage de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Donc, à suivre. La FIFA qui, au passage, a dit, on va donner 10 millions de dollars au fonds de solidarité de l'OMS. Royal, la FIFA, pas obtenu 10 millions, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. Tout à l'heure avec Dominique Cordier, on reviendra là-dessus sur la FIFA. Bon, sur ce qu'on a dit là, les gars,
on va dans le bon sens.
Oui,
tout. Bah, de toute façon, on va dans le bon sens. Tout est fait pour aller dans le bon sens, et c'est absolument normal.
Tu sais, dans le foot, c'est pas si évident. Hein. Des fois, tout le monde se tire dans les pattes, personne n'est d'accord.
Lors de circonstances à ce point exceptionnel, on n'est pas foutu de se mettre d'accord, c'est vraiment à désespérer. Donc là, maintenant. On va cesser le débat qu'on a eu pendant une semaine sur les propos d'Olas, puisqu'on va dire que ces propos sont maintenant hors du temps, puisqu'on a bien compris que la priorité des priorités, c'était de finir, et que si jamais par malheur on devait pas finir, on ressortira le débat pour trouver la meilleure solution et savoir quoi faire de cette saison qui n'aura pas été à son terme. Mais bon, d'après les prévisions et ce qu'on entend, dans 2 mois, on devrait pouvoir remettre le nez à la fenêtre. 2 mois max. 2 mois max, ça laissera peut-être le temps d'aller jusqu'au 15 juillet pour tout finir, quoi.
Voilà. J'ai une dernière info que j'ai pas donnée. Dans les calculs qu'a fait la Ligue, pour être bien, on va dire, pour être bien, c'est-à-dire tout tenir en ayant un peu de latitude, au cas où, il faudrait redémarrer au 15 avril.
Ouais.
Pour terminer au 30 juin, Jérôme.
Ouais, mais c'est pas possible de redémarrer.
Parce que 15 avril, ça paraît courant.
Déjà, je sais pas, j'espère que tout ira mieux et beaucoup mieux et qu'il y aura des améliorations. Mais après, moi, je vois pour les joueurs, la santé des joueurs. Les joueurs, aujourd'hui, ils sont confinés comme tout le monde. Ils s'entraînent comme ils peuvent. Tu vas perdre, même si tu t'entraînes chez toi et que tu fais une activité tous les jours régulière, si tu t'entraînes à des groupes de moins de 10 personne avec le staff, c'est très très réduit. C'est pas là que tu récupères un niveau physique digne de ce nom. Donc il faut se repréparer, il faut laisser le temps. Sinon on va avoir. Alors déjà qu'on s'est emmerdé une bonne partie de l'année, même physiquement quand les mecs sont au top, c'était pas du très très grand niveau. Il faut laisser le temps aux équipes de se remettre en place et tout ça. Donc il y aura un délai de préparation. Je pense qu'il peut être estimé à une quinzaine de jours. Quand tout le monde pourra reprendre ensemble et après redémarrer les compétitions, mais redémarrer d'office quand le confinement sera fini et d'un seul coup on dira dans un premier temps on joue à huis clos, c'est pas possible, Gilbert. Ils peuvent pas faire ça. Donc automatiquement c'est un championnat qui, si ça va dans le bon sens, qui reprendra peut-être si on reprend mi-mai, c'est bien quoi. Déjà mi-mai ça laisse quand même la possibilité, il y a quand même beaucoup de
tu peux finir la saison au 30 juin,
faire mi-juillet, ça fait 2 mois, hein.
Tu peux même finir la saison au 30 juin en reprenant mi-mai.
Ben, en plus, voilà, c'est ça. Donc, et au pire, même si tu reprends fin mai, début juin, ben, tu joueras tous les trois jours et tu finiras, comme disait Daniel, tu finiras le 15 juillet. Mais je pense que le plus gros, c'était que l'Euro soit repoussé d'un an. Et ça montre que tout le monde a en tête de finir les championnats respectifs. Donc, je pense que ça sera.
Une fois que la news du report de l'Euro est tombée, ça veut dire que clairement, ils veulent aller au bout et qu'ils trouveront toutes les solutions. C'était ça qui bloquait.
Si je t'ai bien suivi, Jérôme, tu disais il faut reprendre donc après le confinement, donc dans 15 jours, la durée minimum du confinement, c'est 15 jours, selon ce qu'a dit hier le président de la République, pour démarrer absolument mi-avril, parce qu'il faut 15 jours de préparation physique pour être au minimum au point. Enfin, quand je dis au minimum, c'est pour retrouver une condition normale. C'est impossible. C'est impossible que les joueurs reprennent mi-avril.
Ben non, oui, c'est impossible. Et puis là, imagine, au mieux, c'est que 15 jours de confinement et derrière, ils arrivent à reprendre ensemble. T'auras perdu 15 jours. Alors, tu perds vite, hein, vraiment. Hein, les gens se rendent pas compte, mais quand t'es sportif de haut niveau, que t'es habitué à t'entraîner comme ça tous les jours, avoir une grosse activité physique avec le rythme des matchs, il suffit juste de t'arrêter déjà une semaine et tu sens des effets vraiment négatifs dans ton corps quand tu reprends. Donc après, il faut réadapter. 15 jours, ça commence à faire. Donc juste 15 jours derrière d'entraînement, et encore, c'est même pas des entraînements poussés, parce que si tu me dis que la compétition doit reprendre 15 jours après, c'est vraiment une semaine poussée, 8 jours poussés, pour après remettre la machine comme il faut pour la compétition, c'est-à-dire gérer les efforts sur la dernière semaine, sur les derniers jours. Donc ça me paraît trop limite.
Et on rappelle que les épidémiologistes parlent de mi-avril, début avril, voire mi-avril, concernant le pic de cette pandémie. Ouais. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas comment on pourrait redémarrer la compétition mi-avril. Même si ce ne sont que des estimations.
En gros, vous n'avez pas fini d'être dans vos canapés. Hein.
J'ai l'impression.
Écoute, si pour que ça aille mieux, il n'y a pas de souci.
Hein. Gilbert évoquait tout à l'heure les deux matchs de l'équipe de France reportés. Quel est l'intérêt, messieurs, du coup, de reporter deux matchs au mois de juin alors qu'il n'y a pas d'euros?
Autant les annuler.
Autant les
annuler. Ils vont finir par être annulés. C'est juste qu'ils les ont mis genre pour les caser, pour faire bien comme ça. Mais ça paraît aberrant. On s'en fout de ces matchs-là.
Alors, moi, j'ai quand même deux questions. Alors, déjà, la première question, c'est attention, enjeu financier pour la Fédé. Parce que si jamais ces matchs-là, tu peux les faire en public au Stade de France, ça représente quand même quelque chose. Donc, la Fédé voudra les faire. Voilà. Et deux, la question quand même cruciale, c'est est-ce que Jérôme et Daniel sont sur des canapés poltron et sofa?
Mais non, je t'ai dit que je les sortais.
On veut savoir.
Je suis table de salamandre.
La France veut savoir.
Je suis sur une chaise, moi. Mais moi, en fait, je crois que je pourrais pas être dans un canapé. Je trouve qu'on n'est pas à l'aise pour parler, pour s'exprimer. Pardon.
Moi, je suis bien.
Ouais, mais écoute, même si tu vois, imagine que dans les studios. Au lieu d'être autour d'une table avec des chaises, ce soit, j'en sais rien, moi, des canapés et tables basses, ça pourrait être un décor, j'en sais pourquoi pas, hein. Eh ben, je crois que ça me plairait pas. Je trouve qu'on n'est pas à l'aise pour bien s'exprimer quand on est dans un canapé.
Moi, je suis bien. Moi, je suis avec mon short dans Karagoutchou, là, parce que vu que c'est. Oui, mais c'est le seul championnat qui joue. Je me suis mis à la mode turque. Hein.
Voilà. Le short dans Karagoutchou, ça, pièce de collection, quand même.
Ah, ouais, il a même pas fait l'effort de s'habiller pour venir faire l'émission.
Le maillot, je voulais le mettre, mais mon fils m'a dit il est pas beau. Il ressemble au maillot de Sochaux, tu vois. Donc, moi, je trouvais beau, mais bon.
Sympa pour Sochaux.
Oui, on a perdu des.
C'est pas moi qui le dis, c'est mon fils.
Excusez-moi, son fils a le droit d'avoir des goûts quand même.
Mais non, il y a eu des très beaux maillots de Sochaux dans l'histoire. Le maillot vintage Peugeot, là.
Voilà, avec Travelling.
Bon, dans quelques instants, on est de retour avec Dominique Cournier qui nous dira ce qu'il a pensé, lui, de ce qui s'est passé aujourd'hui dans ses différentes réunions à l'UEFA, à la Ligue, bien sûr. Et puis, le 32-16 est ouvert pour réagir, supporters des clubs français. Est-ce que vous avez entendu vous satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas très optimiste pour la suite, ou vous êtes carrément pessimiste, ou l'inverse? Enfin, venez nous le dire, quoi. L'antenne est ouverte jusqu'à minuit avec vous, c'est l'after. Le 32-16 est là. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Daniel Riolo, Jérôme Roten, Eric Huette dans l'after ce soir. Tout à l'heure, les chapeaux, donc on va démarrer ça aux alentours de 22h40 avec les drôles de l'âme, avec Julien Cazard, bien sûr. Vous savez quand même qu'on est donc le mardi soir. Hein. Normalement, ce soir, c'était Juve-Lyon. Hein. Donc là, on joue.
Oh, oui, c'est vrai.
On joue depuis 31 minutes, 0-0, d'après nos informations. Je crois qu'il y a eu une grosse occasion pour Cristiano, mais, ouais, mais Lopez, heureusement, Lopez était là.
Higuain a raté la manquable.
Et dans le même temps, l'élimination de Real devait se confirmer.
Ah ouais.
Fred Hermel à 21h31 devait déjà être en larmes.
Exactement.
Bah ouais, il y a 2-0 là. 2-0 déjà pour City.
Et ouais.
Les gars d'Aguero.
C'est logique.
Ah oui, qui sera le capitaine du chapeau 1 tout à l'heure.
Bon, évidemment, on vous tient informé de l'évolution des matchs, hein, en exclusivité dans l'after ce soir. Dominique Courdier est avec nous. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Gilbert.
Bonsoir New Stank Football, hein, bien sûr Dominique, qui donc a créé ce. J'arrive jamais à le définir. New Stank, c'est incroyable. Je vais dire.
C'est une agence d'information destinée aux décideurs du football.
Ah, excuse-moi, voilà. J'ai pas l'habitude en fait. C'est pour ça. Nous, tu sais, comme on s'adresse toujours au grand public.
Voilà.
Alors Dominique, t'as suivi comme nous ce qui s'est passé aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc tout s'est passé comme prévu en fait. Finalement, il n'y a pas eu de surprise.
Hein, j'étais, comme je l'avais dit vendredi, moi j'étais un petit peu moins optimiste. Et là j'ai été quand même surpris en bien. Voilà, je trouve que le monde du foot a été à la hauteur. Et je repensais, sans être grandiloquent, mais je pensais à la fin de discours du président de la République hier soir qui disait « Ils sont nous à la hauteur du moment ». Eh bien, je pense que le foot aujourd'hui s'est hissé à la hauteur du moment. Plutôt réjouissant.
Bah oui, parce que faut quand même rappeler que dans ce genre de réunion, en général, c'est la foire d'empoigne.
Il y a des intérêts divergents. Oui. Chacun essaye de défendre ses intérêts. Et puis, je pensais surtout à la querelle historique entre l'UEFA et la FIFA. Et vous avez parlé du communiqué de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui effectivement ce soir dit qu'il a reçu la demande de report de l'Euro et de la Copa América. Il va examiner ça demain avec le conseil de la FIFA, mais lui déjà dit qu'il va proposer que ces reports soient validés, donc ils le seront sans suspense. Et je trouve qu'il y a c'est vrai que les circonstances sont complètement à la fois exceptionnelles et en même temps dramatiques. Et je trouve que dans des circonstances pareilles, eh bien que le quant à soi et les intérêts particuliers s'effacent un peu devant l'intérêt général, je trouve ça bien, quoi.
Bon, bah oui, on est tous d'accord.
Moi j'étais optimiste, Dominique un peu moins. Voilà, l'important c'est comment ça s'est fini surtout.
Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé aujourd'hui peut préfigurer de rapports différents à l'avenir, tu vois, parmi les instances du football mondial, entre l'UEFA, la FIFA, les clubs, voilà. Est-ce que ça peut accoucher sur une sorte de nouvelle donne, ou est-ce que c'est juste un truc de circonstance?
Il y a quand même, disons qu'il y a un rapport de force. Le rapport de force, il existe, et aujourd'hui, quand même, les clubs qui sont les employeurs des joueurs ont un rôle de plus en plus central, et ils l'ont prouvé. C'est une démonstration aussi de leur force aujourd'hui. Ouais. Hein, les clubs ont réussi depuis quelques années à avoir, par exemple aujourd'hui, deux de leurs représentants qui sont au comité exécutif de l'UEFA. Ils font entendre leur voix. Le CA, donc qui est l'Association européenne des clubs, a un poids extrêmement puissant, et donc il y a un rapport de force avec des clubs puissants, avec des ligues, et surtout quand on parle des ligues, c'est-à-dire les organisatrices des championnats nationaux, faut surtout penser aux ligues les plus puissantes, c'est-à-dire nos quatre voisines, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Ligue allemande, et puis la Lega Serie A en Italie, plus la cinquième, disons, mettons la Ligue de football professionnel avec les quatre grandes, elles ont du poids aussi, elles ont défendu aujourd'hui leurs intérêts qui étaient de mener au bout les championnats nationaux.
Ouais. Est-ce que ça veut dire clairement que ça entérine le fait que les clubs, de toute façon, pèsent beaucoup plus lourd que les sélections nationales?
Ah, aujourd'hui, entre le football de sélection et le football de club, on sait bien que la balance est de plus en plus déséquilibrée. Hein. Le succès de la Ligue des Champions en est une démonstration annuelle. Aujourd'hui, on voit l'Euro l'euro disparaît du calendrier de l'an 2000, ça arrange les clubs évidemment de pouvoir mener leur compétition jusqu'au bout. Ça arrange l'UEFA aussi de pouvoir terminer ses coupes d'Europe. Donc ce sont des compétitions de clubs là qui vont pouvoir aller à leur terme au détriment donc de l'euro qui aura lieu l'an prochain. Ça arrange un peu tout le monde, mais aujourd'hui effectivement le football de club a vraiment pris le pas sur le football de sélection.
C'est quand même intéressant ça, parce que l'UEFA organise les donc deux types de compétitions, compétition de club et compétition de sélection nationale. Moi, je suis désolé. On sait tous comment sont nos dirigeants, les Agnelli, Aulas et compagnie. Demain, ils peuvent très bien arriver. Ils disent, mais finalement l'euro, ça vaut le coup de le garder cet euro. On pourrait faire autre chose avec nos clubs, etc. Enfin, moi, je sais pas. Hein, peut-être, je me fais peut-être un.
Non, mais ça, il y a jamais eu de ce genre de vérité.
Je me méfie, moi. Hein.
Non, mais déjà, s'il doit y avoir un chantier que doivent mener les dirigeants dont tu parles, c'est la fameuse idée de la Super League fermée. Ils en sont pas à entrer en guerre avec les sélections, parce qu'en plus les sélections, qu'on le veuille ou non,
ça fait longtemps qu'ils sont en guerre avec les sélections.
Ils le sont, mais en même temps, ça peut aussi les servir indirectement pour valoriser les joueurs. Ils y touchent pas tant que ça. Ils n'entrent pas dans un conflit frontal avec les équipes nationales. Il y a eu parfois quelques petites tendances ici ou là, mais grosso modo,
Il y a plus que des tendances. Hein. Il y a par exemple, si on reprend au cours des dernières années, le match du mois d'août, il y avait un match à la mi-août, il y avait un créneau international.
Ouais, oui.
Il a disparu. Oui. Aujourd'hui, on a créé ces semaines avec deux matchs.
Oui.
Les rendez-vous internationaux donc sont regroupés et on joue deux matchs. La semaine commence le jeudi et se termine le mardi suivant avec des matchs tous les jours.
Je parlais pas tant des matchs amicaux, parce que les matchs amicaux, je sais qu'ils ont toujours grignoté dessus. Je parlais plus des grosses compétitions, des gros rendez-vous comme l'Euro, la Coupe du Monde. Ça a toujours été sanctuarisé quand même, non ?
C'est vrai, faut admettre à l'inverse, c'est vrai qu'un joueur qui joue en équipe nationale, au niveau d'un club, en termes d'image, c'est ce que je voulais dire.
Que la guerre ait eu lieu régulièrement et pour grignoter sur les matchs amicaux, et t'as raison de rappeler cette histoire qu'ils ont obtenue, que les deux matchs soient regroupés pour qu'en gros ce soit un peu étalé, genre on s'en débarrasse vite fait, jouez-les vite, on n'en parle plus. Plus suppression du match du mois d'août, ça là-dessus t'as raison. Mais moi je parlais vraiment des grosses compétitions. Ça là-dessus, ça a toujours été mis à part quoi quand même.
Oui. De toute façon en termes d'image, c'est difficile de quand même trop s'en prendre. Trop ouvertement au football de sélection, parce qu'il y a un petit esprit chauvin. Quand on est patron de la Juve, par exemple, c'est impossible de s'en prendre à la Squadra Azzurra, de pas être un soutien fervent à l'équipe nationale italienne. Ça, c'est impossible.
Il y a quand même un paradoxe, c'est que les dirigeants, évidemment, eux, privilégient les clubs aux sélections nationales, alors que les joueurs, Jérôme, toi qui. Voilà, je veux dire, quand tu es en équipe de France, c'était au-dessus du club.
Je suis pas.
Non
Là, franchement, Gilbert, je sais pas d'où tu tiens ça, toi.
Hein. Non. Normalement, c'est le Graal, l'équipe de France, pour un joueur.
Ouais, non, mais oui, c'est.
Dominique est mort de rire, mais.
C'est le Graal, c'est le Graal
parce que ça rajoute des primes au contrat.
Vas-y, Jérôme.
Non, Daniel, arrête. Là, c'est
pas pour toi, Jérôme, parce que toi, tu es sain, propre et net. Je parle pour d'autres.
Non, mais c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Oui, bien sûr que ça reste l'objectif suprême et c'est l'aboutissement. Quand tu touches l'équipe de France ou. Ta sélection nationale, il n'y a pas mieux en termes de niveau, en termes de carrière. Ça veut dire que quand même, tu montres des choses bien au-dessus de la moyenne.
Quand tu as une sélection en équipe de France, c'est autre chose qu'avoir 500 matchs avec un club de Ligue 1 moyen, par exemple.
L'un va avec l'autre. Oh là, c'est pour ça que quand tu es joueur, tu peux pas te dire oui, bah non, la priorité reste l'équipe de France. Non, la priorité, c'est ton pain quotidien. Ça reste les clubs, quand même. L'équipe de France, ça arrive en plus. C'est bien sûr que quand tu touches l'équipe de France, mais comme tu dis Daniel, ça va avec le statut que tu as après dans ton club et le statut que tu arrives à avoir en termes de salaire, parce que tu touches le Graal, tu touches les meilleurs de ton pays, tu fais partie de ceux-là. Donc mais le choix il est vite fait. Tu peux pas. Du moins moi j'ai du mal à penser qu'un joueur fait en fonction des matchs avec son équipe nationale. C'est-à-dire, je m'explique, s'il y a un match, tu te sens moins bien dans la semaine, mais que la semaine d'après, tu es sélectionné en équipe de France pour le match le jeudi, le mercredi ou le jeudi, et que tu as un match avec ton club le week-end, bah, tu vas pas faire en fonction du match de l'équipe de France. t'as envie d'abord, avant tout, de jouer avec ton club. Et puis après, derrière, de jouer avec
Attends,
ta sélection.
Mais on est les premiers à calculer en permanence. Regardez par exemple Giroud ces derniers temps, dire ouais, mais regardez, il faut qu'il joue au moins là pour être à l'Euro, donc il faut qu'il joue un peu en club mais pour être en sélection nationale.
Mais non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est l'un va pas sans l'autre. Ce que je veux dire, c'est que ton club, c'est ton pain quotidien. C'est tu construis ta carrière en t'entraînant tous les jours, en jouant avec ton club. Après, t'as la petite carotte, la cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise, comme diraient certains. C'est les matchs, c'est les matchs en équipe de France. Et écoute, Giroud, ça passe par son le pain quotidien. Ça, c'est pour ça qu'on dit que s'il joue pas en club, comment tu veux qu'il soit performant avec l'équipe de France? C'est la même chose pour n'importe quel autre joueur.
Dominique, juste un mot quand même sur la Copa América. Est-ce que tu penses qu'il a fallu peut-être un peu, comme on dit en politique, tordre le bras des Sud-Américains pour repousser parce qu'ils ont souvent un fonctionnement un peu à part là-bas, la CONMEBOL. En général, ils n'aiment pas trop qu'on vienne leur dicter comment faire.
Bon, ben, là, disons que ça arrangeait tout le monde. La CONMEBOL au niveau international, bon, elle pèse beaucoup, évidemment, c'est l'Amérique du Sud, hein, c'est surtout le Brésil et l'Argentine, d'abord. Mais disons que là, ça arrangeait tout le monde jusqu'au niveau de la FIFA, puisqu'on décale l'Euro, on met exactement la Copa América aux mêmes dates que l'Euro, ce qui était prévu déjà cet été, bah ça sera en 2021, et ça permet aussi de ne pas compliquer trop la donne pour la reprogrammation de la fameuse Coupe du Monde des clubs, édition numéro 1, qui devait avoir lieu en Chine l'an prochain. Donc là, ça arrange l'Europe. Peut-être que l'Europe va dédommager un peu la CONMEBOL, puisque ça les arrange aussi que les joueurs sud-américains qui jouent dans les ligues européennes, eh bien, soient en sélection en même temps que ceux qui seront évidemment à l'Euro. Donc c'est là, ça arrange un peu tout le monde. Voilà. Ouais,
c'est vrai. Alors d'ailleurs, c'est assez fantastique parce que le Brésil et l'Argentine dont tu parles. Donc là, les Argentins, je le disais tout à l'heure, ils ont décidé d'arrêter. Enfin, la nuit dernière, il y avait encore des matchs au Brésil. Voilà, les championnats régionaux là en ce moment là, championnat Sao Paulo. Alors que Sao Paulo et Rio ont été placés en zone d'urgence. Mais on continue à jouer au foot tranquille. Hein.
Vous avez vu, certains joueurs sont entrés sur la pelouse avec des masques justement pour témoigner de leur volonté d'arrêter justement de jouer.
Ouais. Bah ouais, mais les dirigeants, ils veulent pas, ils veulent jouer. Donc, pour l'instant, en tout cas au Brésil, il n'y a pas d'arrêt officiel.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau international, bon, demain, il y a déjà une première réunion au niveau de la FIFA, mais que cette crise va permettre aussi de remettre un peu le problème du calendrier à plat et qu'on va pouvoir déjà amorcer un peu la préparation de la Coupe du Monde 2022, donc qui a lieu en novembre et décembre 2022, et ce qui implique évidemment des travaux, des accommodements au niveau des championnats nationaux précédents. Et donc cette réflexion va entrer là dans une phase plus concrète dans les semaines qui viennent.
Moi, je suis quand même choqué que personne n'ait invité Coach Courbis à cette réunion à l'UEFA ce matin. Quand même, le spécialiste des calendriers, c'est lui. Donc, franchement, Roland, depuis le temps qu'il en parle, j'aurais quand même pu l'écouter. Il t'aurait fait un calendrier aux petits oignons, Roland. Et t'aurais jamais eu une finale de coupe avant la fin du championnat.
Ah ouais, là, il va se régaler quand on va reprendre les émissions. Là, on va y avoir tous les jours.
Hein. Bah là, c'est annonce, déjà, il nous écoute, il est en train de bouillir. Là. Il en peut plus.
Ah non, mais là, monologue de un quart d'heure. Ouais. Minimum.
Dominique, merci beaucoup. C'était très intéressant comme vendredi dernier. Hein.
Donc, je vous en prie.
Newstown Football. Donc, si vous
pour vous servir, qui continue malgré les compétitions s'arrêtent, mais Newstown Football continue.
Ah bah là, il y a de l'actu là en plus là. Donc
voilà, exactement.
Merci Dominique. Bonne soirée.
À bientôt. Bonne soirée à tous.
Merci. Dans quelques instants, Arthur au 32-16. Il veut jouer l'été, Arthur. C'est une piste qu'il a envisagée aussi. Et puis on va également quand même parler de Deschamps. Parce que, comme Julien Cazard le faisait remarquer avec justesse il y a quelque temps, ce report de l'Euro, il arrange qui? Il est fort quand même.
Vu l'état de forme de certains, oui.
Il est fort. Bon, sinon, c'est la mi-temps à Turin. Hein, il est 21h45.
Toujours 0-0, donc Lyon est toujours qualifié. Là.
Ils tiennent, ouais, un grand Lopez. Hein, quoi, hein.
Et dans l'autre match, Eric, il se passe
rien. Anderson fait son plus grand match.
Lyon est qualifié, ça c'est sûr.
Ah, c'est vrai, pour l'instant, Lyon est qualifié. Dans l'autre match, Eric.
Anderson est en train de faire son plus grand match sous le maillot de l'OL.
Toujours 2-0
2-0, mais ils prennent une branlée. Hein, oui.
C'est vrai qu'Andersen fait enfin un bon match avec Lyon.
C'est son meilleur match depuis qu'il a signé. Hein.
Je pense que les joueurs ont lâché Zidane.
Ah mais je pense que Fred Hermel, quand il va arriver tout à l'heure, sera en larmes.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Eric Huette, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rantaine. Je rappelle que c'est la mi-temps entre la Juve et Lyon. Ce jeu me plaît, moi. Je pense que ça va nous faire la soirée.
Andersen, c'est pas le même joueur. Hein.
Andersen, c'est.
Il revient en Italie, comme par hasard, bam, un match incroyable.
Pardon, c'est surtout le retour de Rudy Garcia en Italie, quand même.
Et aussi, je pense qu'il est motivé, ouais.
Eh oui. Arthur est avec nous au 32-16, supporter Rennais. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir, merci. Et puis d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, un très très bon match d'Andersen. Je mis sur un petit but là, en deuxième mi-temps.
Très bien, bah, écoutons. On lui souhaite, comme disait l'autre. Arthur, toi tu milites pour jouer l'été?
Oui, totalement. Alors j'ai regardé un petit peu le calendrier jusqu'à quand le coronavirus pourrait frapper, en tout cas selon des plus ou moins de théories.
Le problème, c'est qu'on entend autant de théories que de dates possibles.
C'est clair. Donc, j'ai voulu prendre une marge assez longue pour une reprise du championnat le 2 mai. Il reste 9 journées qui s'étaleraient jusqu'au 13 juin. Du 9 mai au 13 juin, on a 7 semaines. L'occasion aussi de faire des matchs en semaine, donc d'en mettre 2 matchs en semaine. Sur 9 semaines au total, je trouve pas ça dégueu. On termine le 13 juin.
Mais attends, t'as un problème là. Où est-ce que tu mets les barrages?
Ah bah les barrages, on va les caler en semaine, franchement, entre nous.
Ouais, les barrages, tu veux pas les faire avant que le championnat soit fini?
Non, mais les barrages pour les descentes et les montées.
Bah ouais, donc ça veut dire que le championnat doit être fini. Donc ça veut dire que ton championnat, il doit finir avant le 30 juin, si tu veux mettre les barrages.
Oui, bah il sera fini avant le 30 juin. Oui, je vois finir le championnat le 13.
Ah oui, voilà. Donc tu laisses
le
encore.
Le 13 juin. Le 13 juin, et puis la Ligue des Champions, la Ligue Europa, pour moi, ça pourrait être important aussi de garder les droits télé qui ont été, entre guillemets, réservés. Voilà, il y a une com autour aussi pour les chaînes, c'est important. Et pourquoi pas, du coup, remplacer cette Coupe d'Europe par la Ligue des Champions en semaine avec la Ligue Europa, et même en profiter pour, pourquoi pas, tester, mettre des matchs de Ligue des Champions le week-end. Pourquoi pas faire des choses comme ça? Pourquoi pas remplacer? Parce qu'on n'a pas de Copa, ni de CAF cette année, je crois. Donc, pourquoi pas tester sur cette durée, que ça ne s'éternise pas jusqu'à fin août, loin de là.
Vu que le format est encore à définir, c'est possible. Hein. Imaginons qu'on nous invente un format, avec des éliminations directes et plus de matchs aller-retour, par exemple.
Ah bon?
Ça a été évoqué.
C'est évoqué, Jérôme.
Ah, c'est évoqué.
Qu'est-ce qui est évoqué là? J'ai raté un truc là.
Que les Coupes d'Europe se transforment en compétition condensée. C'est-à-dire un seul match partir des quarts de finale.
Oui. C'est ce qu'on a dit hier soir. Je pensais j'avais raté un truc. C'est ce qu'on évoquait hier. Oui, genre un tournoi.
Soit
une sorte
sur terrain
de play-off,
neutre, soit un tirage au sort avec le premier tiré, bien reçoit. Voilà. C'est vrai, l'unique match.
J'espère qu'on va pouvoir faire les matchs aller-retour.
Auditeur parlait de matchs le week-end de Champions League.
Fois il n'y a pas, Gilbert, tu vas faire quoi?
Je sais bien, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais j'espère que ce le soit.
Nos confrères de Marca évoquent deux dates de finale. Hein, pour la Champions League, ce serait le 27 juin et pour l'Europa League, le 24, le mercredi 24.
Ah, ça fait tôt.
Bizarre. Marca, ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
Le même soir que le barrage Lens-Nîmes.
Ah oh merde. Pourquoi tu vois Nîmes en barrage, toi? Parce que tu parles de Nîmes, parce que tu te prends pour Jean-Jacques Bourdin.
Bah non, mais...
même micro.
micro.
Bah non, mais pourquoi pas Nîmes en barrage? Toi qui en barrage?
Saint-Étienne, c'est plus marrant.
Vous savez,
vous
savez très bien, Jérôme a raison, ce qui serait... Alors, je dis ça, évidemment, aucun des deux clubs, supporters des clubs ne doivent mal le prendre. On parle dans l'absolu. Bien sûr. Le plus beau de tous les barrages, on sait très bien que ce serait Lens Saint-Étienne.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
C'est le plus beau de tous. Je le souhaite à aucun des deux. Enfin, je souhaite du mal à personne, évidemment.
Mais on est aussi d'accord, Daniel, et là, je dis pas ça par rapport aux autres clubs que je ne cite pas, que l'intérêt de la LFP, de la Ligue professionnelle, c'est d'avoir et Saint-Étienne et Lens en Ligue 1.
De quoi tu dis, Gilbert?
Que l'intérêt de la Ligue et du foot professionnel français, c'est d'avoir...
Que les deux
sont... Saint-Etienne et Lens sont en Ligue 1.
Évidemment.
Puisque
évidemment.
Ça représente deux grands stades avec du monde, et que ça, c'est beaucoup plus bankable que d'autres clubs qui drainent moins de spectateurs. Dis-moi, Arthur, juste, je te signale un truc. Demain, Olvec va être intronisé comme nouveau président du Stade Rennais. toi qui es rennais. Donc je pense que demain soir dans l'after on fera une page spéciale Rennes.
Ce serait magnifique.
On aura peut-être, je l'espère, Olvec avec nous demain dans l'after, hein, puisque vous savez que toutes les émissions au foot d'RMC à partir de demain s'arrêtent à l'exception de l'after qui continue. Demain, un programme spécial sur RMC.
Entre, et à partir de 22h du coup,
oui, à partir de 22h. Demain, entre 18h et 22h, émission spéciale liée à l'actualité sanitaire ici en France, bien sûr, et l'after de 22h à minuit à partir de demain. Donc, on pourra récupérer pas mal d'invités qui font l'actu dans l'after demain soir. Donc, j'espère qu'on aura avec nous Nicolas Olvec qui sera demain soir officiellement le président du Stade Rennais. Merci Arthur.
Mais merci à vous en tout cas, passez une bonne soirée et puis pourquoi pas à demain.
Ça marche, ben quand tu veux, hein, demain, tu es le bienvenu, tous les supporters rennais également, pour qu'on en sache plus sur Nicolas Olvec. Tu le connais toi Jérôme ? Il a passé Nancy, par Monaco.
Bah oui, à Monaco, bien sûr que je le connais. Alors après, moi, je l'ai pas côtoyé au quotidien, mais bon, il avait un rôle important. Mais bon, là, il est vraiment sur le devant, quoi. C'est lui le président, ce qui n'était pas le cas à Monaco. Donc,
il avait après, comme c'est comme d'habitude, président. Attention, il n'est pas propriétaire du club évidemment, donc c'est président délégué à la Jacques-Henri Hérault, quoi. Voilà.
Mais comme il était à Monaco, adjoint du.
Il n'était pas président à Monaco. Ouais.
Non, il n'était pas président, mais il était le bras droit de Petrov dernièrement. Dès que Petrov allait faire un rendez-vous pour rencontrer un joueur, un agent ou des dirigeants, Olvec, il était avec lui. Donc c'est là c'est vraiment lui. Ça sera l'homme fort. Écoute, je ne sais pas si ça va marcher. Ça sera sa première expérience dans tous les cas.
Voilà, et Max du Standard qui maintenant qui passe à l'antenne régulièrement fait aussi des blagues, nous dit est-ce que c'est le frère de Martin Olvec.
Ah, il est bon ce Max.
Sacré Max.
Ouais.
Oui, je disais quand même, parlons un peu pendant quelques minutes des conséquences du report de l'Euro sur l'équipe de France. Deschamps aujourd'hui s'est félicité du truc, hein. Il a dit oui, c'est la meilleure décision, il avait l'air ravi. Alors, bon, évidemment, il avait l'air ravi parce qu'il prend en considération.
Attends, pardon, excuse-moi de revenir en arrière. Tu sais, comme je suis loin, parfois je mets un petit peu de temps.
Oui, c'est le temps que ça te monte au cerveau.
Oui, et puis forcément, on n'est pas dans la même réactivité. Mais puisque tu parles de Martin Solveig, là, qui va à Rennes, il faut dire aussi que d'abord, il y a eu une première rumeur qui faisait état de l'embauche de Florian Maurice pour le poste de DS. Que visiblement,
ça a été démenti aujourd'hui.
Exactement. Mais qu'une autre rumeur grossit et elle est intéressante à suivre de près aussi, c'est peut-être Gilles Grimandi.
Oui.
Qui tout prendrait cette place-là.
Donc, Monaco.
À Rennes.
À Rennes. Que Gilles Grimandi aille à Rennes. Ouais,
il serait directeur sportif en fait.
Exactement. En dessous donc de Martin Solveig.
Ça y est, il a son surnom.
En dessous, de toute façon, Olvec, il est obligé de s'entourer.
Exactement.
C'est pareil.
De toute façon, il va lui falloir un DS. Hein.
Ben oui, bien sûr. Il faut quelqu'un qui connaisse le sportif. À Monaco, attention, moi je veux pas. Mais à Monaco, ils décidaient de rien, quoi. Moi, j'ai eu des échos.
Ben ils géraient, quoi.
Ils suivent.
Ils rangeaient les classeurs.
C'est ça. Oui.
Il signait les notes de frais, tout ça.
Exactement, c'est lui les qui paye l'addition sur les.
Je vous ai promis Nicolas Olvec demain soir, mais finalement il est avec nous ce soir. On va aller chez lui. Allô. Ah Nicolas.
Oh, il est bon.
Ah, il nous entend pas. Bon, on aura demain soir. Ouais. Ah franchement. Bon.
En plus c'est pas le DJ du PSG, Martin Solveig.
Bah, il est un peu DJ de tout, lui. Il aime bien le tennis.
Ah, mais Rennes aime bien recycler des anciens parisiens.
Comment va se passer l'intronisation, d'ailleurs, Gilbert?
Aucune idée.
On n'a pas le droit de se serrer la main.
Ah oui, c'est vrai, ça. Aucune idée. C'est un peu dommage quand t'es avec Salma de pas pouvoir lui faire la bise, quand même.
Ouais, là, c'est raté, là. C'est...
Je pense pas qu'elle va se déplacer pour lui.
Oui, c'est pas... Sauf si on lui dit que c'est Martin Solveig.
À moins qu'elle soit confinée à Rennes, on sait pas.
Ah ouais.
On n'a pas d'infos là-dessus.
Cela ne nous regarde pas.
Non.
Je voulais qu'on parle de l'équipe de France. On va le faire dans quelques instants, parce qu'il faut quand même qu'on ait 5 minutes pour le faire. Mais dites-moi là, les gars, Daniel et Jérôme, vous ne nous avez même pas parlé une minute du report de Roland Garros.
Quel scandale.
Écoute, très franchement, le report de Roland Garros, si c'est pour être au mois de septembre, pas trop loin de l'US Open, ça nous fera une grosse session tennis de septembre.
si tu veux vraiment parler des problèmes du tennis, c'est plutôt l'interruption de la carrière de Jérôme et moi. Ça nous pèse plus que l'interruption de Roland Garros. nous on peut pas jouer.
Il y a un vrai problème, Daniel. Le problème, c'est que tu t'es mis trop au tennis. T'es rentré dans le tennis. Donc ça, c'est un problème pour le tennis, ça c'est sûr.
On m'a quand même dit qu'il y avait un vrai manque à gagner.
Pas faire de sport, ça me.
Tu peux faire du sport, pas jouer au tennis,
c'est costaud. Mais vu la situation, on va pas se plaindre.
Il paraît que le resto du central déplore quand même votre absence pendant la quinzaine.
J'allais pas au resto quand j'allais à Roland. Non, c'est Jérôme qui est invité, qui croque.
Un petit tennis de table à la maison, Daniel.
Arrête, Eric. Tu sais quoi, Eric? Ouais. Avant le confinement à midi, ce matin, je pense à ça. Je me suis dit, j'ai la table de la salle à manger, il faut que je file, me trouver un filet. Et les tables de ping-pong. Tout était absolument fermé, impossible.
C'est fou
que tu parles de ça parce que j'ai pensé ce matin.
J'aurais dû t'en parler hier soir.
Enfin, excuse-moi, tu peux te faire un filet de ping-pong tout seul sans vrai filet?
Je peux, sauf que j'ai pas les raquettes.
C'est moins pratique, un peu compliqué.
Même les raquettes, je m'étais dit, tu te démerdes, tu fais avec quelque chose, mais j'ai pas la balle.
Tu mets une petite annonce dans ton immeuble, cherche raquette de ping-pong pour l'appartement 404.
Ouais, et puis joue pas trop au tennis de table, tu vas prendre des mauvaises habitudes pour le tennis.
Le tennis c'est pareil, sauf que t'es debout sur la table.
Déjà que tu joues petit bras, alors là c'est fini.
La dernière fois qu'on a joué, c'était ça, ouais, je me souviens.
On me signale que le dernier match avant la trêve, paraît-il, est un match Jérôme Rantaine qui s'est terminé en boucherie.
Non, c'est pas du tout.
C'est pas vrai, mais de toute façon, c'est d'ordre privé, donc on n'a pas à en parler.
Ah, donc ça veut dire que t'as perdu ça?
Non, ce soir c'était pas une boucherie. 6-1, 6-2, je sais pas comment on appelle ça.
J'ai failli prendre le troisième.
Le troisième.
Alors on me dit que c'est 6-1, 6-0, 6-4.
Non, 6-4, le découpage. 6-4, il a tremblé. Mais bon, Jérôme est d'un autre niveau. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Et moi, je voulais parler du report. Non, mais c'est vrai que ce qui est surprenant, parce que
Le report de Roland Garros.
Ouais, du report de Roland Garros. C'est juste les déclarations des joueurs. C'est déjà les joueurs, la plupart des joueurs ont pas été au courant de ce report-là. Ils l'ont appris par les réseaux sociaux. Et surtout...
Ils désapprouvent la nouvelle date.
Comment ?
Ils désapprouvent la nouvelle date.
Ouais, ils désapprouvent, c'est ça. Parce que tu passes quand même en une semaine. Alors, c'est vrai que nous, on va se régaler parce qu'on adore le tennis. Donc, on va avoir deux grands chelems en l'espace de 15 jours. Mais quand même, tu passes d'une surface de dur à la terre battue derrière. C'est après la saison de terre battue de gazon.
Ouais, les pauvres chéris.
Non mais franchement,
Jérôme, les mecs ils vont arranger leur calendrier et puis comme dit Gilbert, les pauvres chéris quoi, vu la situation, ça va. Je sais que le joueur de tennis a l'habitude d'être un peu capricieux.
Il faut pas l'embêter, faut pas lui poser des questions qui fâchent.
Quand même, ça va.
Bon, on va revenir au foot dans quelques instants. On aura avec nous Bernard Jordan, le président d'Amiens. Les conséquences sur l'équipe de France du report de l'Euro, les trois matchs de légende d'Éric Huet qu'on vous avait promis hier soir et qui vont tomber ce soir. Et les chapeaux.
Il n'y a pas intérêt à se tromper.
Et les chapeaux, bien sûr, avec le numéro 9.
Au commentaire, ces trois matchs de légende.
Oui, les trois matchs auxquels il a assisté.
Ouais, même commenté. J'en ai choisi trois.
Même commenté. Magnifique.
Ah, donc il n'y a aucun de Monaco.
C'est juste après.
Exactement.
C'est juste après les infos.
Quel scandale.
Dans l'after, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.